Médien.
Médien. Podcast. Médien.
C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Médien pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien, Amna, l'Afrique en culture.
Dans quelques instants, nous irons à la rencontre d'un jeune homme qui est tombé fou amoureux du Maroc, de sa lumière, de sa culture, de sa diversité. Il s'appelle Simon Oldani et ça fait à peu près 6 ans qu'il est au Maroc. Et il a décidé de faire sa carrière de photographe chez nous et notamment avec le projet La Belouette. Puis nous aurons l'immense plaisir de recevoir le peintre sénégalais Zoulou Mbaye, véritable institution école vivante. Il sera avec nous puisque Zoulou Mbaye fête ses 50 ans de carrière et il aura signé un revirement artistique sans précédent dans l'art africain contemporain tel que nous le connaissons aujourd'hui et il sera parmi nous. Puis nous parlerons également cinéma et nous reviendrons au Maroc cette fois-ci avec la jeune réalisatrice Esmel Moudir qui a raflé l'étoile d'or lors de la dernière édition du Festival international du film de Marrakech et nous reviendrons sur son film qui a créé la sensation La mère de tous les mensonges. Et comme promis, nous commençons tout d'abord ce petit tête-à-tête culture avec Simon Oldani. Il est d'origine française, suisse, mais également italienne. Mais c'est au Maroc qu'il a décidé de poser bagage. Il a eu un véritable coup de cœur pour le royaume du Maroc. Une raison de plus, c'est bien pour s'y établir et grandir en tant qu'artiste, puisque monsieur est un touche-à-tout, comédien. Il est également photographe. Il a d'ailleurs participé dernièrement au très beau projet La Belouette, dont on aura l'occasion de parler dans quelques instants. Mais ce qui nous a le plus touché, c'est son amour pour le Maroc.
J'avais envie d'explorer un petit peu autre chose. J'avais envie de quitter la capitale parce que bon, le métier de comédien est un métier magnifique, mais qui n'a quand même de promesses que tes rêves. Et donc, j'ai eu un petit peu peur de l'avenir, je dois dire. Et j'avais envie de diversifier mes activités. Et j'étais passionné de photos depuis toujours. J'avais mon appareil, je faisais ça, mais vraiment comme passion. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier, mais vraiment, jamais je le ferai à Paris. C'était vraiment pour la carrière de comédien que je suis allé à Paris. Moi, je suis de Haute-Savoie, en France. Je suis né en Suisse, tout un mélange d'un père italien. Donc je suis parti à Paris où je suis resté 12 ans. Et un jour, une amie, en décembre 2017, me dit qu'elle va partir au Maroc parce que sa famille a un riad et elle veut aller travailler là-bas. Et donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour lui dire, écoute, moi, je veux me lancer en photo. Peut-être je peux faire toutes les photos, les visuels de ton riad, m'occuper de la partie digitale, des réseaux sociaux. C'était un petit peu le début des réseaux sociaux où ça explosait les riads à Marrakech sur Instagram et compagnie. Donc, j'ai dit, c'est l'occasion de créer votre image digitale. Et sa famille a dit d'accord, mi-janvier. Et le 9 avril 2018, j'ai emménagé au Maroc, pile un an après être venu pour la première fois. Et ce qui est très marrant, c'est que la première fois que je suis venu, j'étais là en week-end, 3 jours, un ami m'a emmené. C'était la première fois, je devais déjà venir une fois avant et le voyage avait été annulé. Comme quoi, ça devait se faire à ce moment-là. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à ce moment-là, en 2017, soit un an avant de venir, j'ai eu une vision de moi en train d'écrire dans ma maison au Maroc. J'en ai pas fait grand-chose, mais quand je me suis retrouvé un an après dans ma maison au Maroc, j'ai dit, il y a des choses qui nous dépassent. Voilà.
Et c'est vrai que le destin ne fait pas les choses au hasard, Simon. Ça fait 5 ans maintenant, voire plus, que tu es au Maroc. Et comment le fait d'être au Maroc t'a transformé en tant qu'artiste?
Effectivement, ça fait 5 ans et demi que je suis là. Ça va bientôt faire 6 ans. Et j'ai énormément grandi en tant qu'artiste. Ma carrière de photographe, elle s'est complètement lancée. Il s'avère que j'ai aussi trouvé le cinéma ici, puisqu'il y a énormément de tournages. J'ai même fait des pubs pour 2M, la télé locale. Et franchement, mon rêve, ce serait de jouer dans une série marocaine en Darija. Avec un coach et un script, je peux le faire, parce que je parle quand même plutôt très bien Darija. Donc ça, c'est vraiment un objectif. Mais voilà, en tout cas, en tant que photographe, j'ai pu explorer tellement de choses, que ce soit à Marrakech ou à Casablanca, parce que j'ai déménagé à Casablanca en février 2023. Bon, j'ai tenu 6 mois, mais 6 mois intenses et riches, parce que j'ai trouvé que, que en fait entre Casa et Marrakech, c'est deux mondes complètement différents. Marrakech, c'est très pictural, c'est très voilà, c'est des images d'Épinal avec des formes qu'on a beaucoup vues. Ça a été énormément exploité par les photographes et c'est tellement normal, c'est magnifique, c'est magique. Ça fera toujours rêver une photo classique de Marrakech avec un mur, une djellaba, des fruits qu'on peut voir souvent. Ce type de photos qu'on peut voir de la Médina seront toujours iconiques. Et c'est super. Donc je me suis vraiment éclaté à explorer ça, d'autant plus que la lumière à Marrakech est vraiment incroyable. Mais à Casablanca, donc voilà, Marrakech c'est une ville qui est en séduction, mais Casablanca, on part dans le cœur du game. Casablanca, il n'y a pas de séduction, ça ne cherche pas à faire la belle. Casablanca, elle l'est, elle vibre, c'est un poumon et ça se ressent énormément. Et pour moi, ça a été une claque, clairement je dois le dire, mais une claque de force. Parce que ben, on voit comment tout le monde s'active et se démène dans cette ville qui est tentaculaire. Et il y a des quartiers qui sont hyper inspirants, notamment le quartier du centre-ville. Je dis pas ça parce que c'est un quartier aux influences architecturales un peu multiples, mais juste parce qu'en fait, c'est un quartier qui est plein de contrastes, qu'on peut voir des figures, on peut voir des femmes comment dire, en tailleur qui marchent à côté de ces immeubles hyper anciens, des hommes qui poussent des charrettes de fruits et légumes, un marché qui semble être d'un autre temps, et des voitures hyper modernes à côté. En fait, tout ça, tout ce mélange montre, on a l'impression qu'il y a 200 ans d'histoire dans la même rue. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. La photo de rue à Casablanca m'a complètement bouleversé parce qu'on est dans le réel, quoi. Il y a quelque chose qui est concret. Et voilà, ça, j'ai adoré. Puis j'ai commencé à faire des campagnes de pub avec des boîtes de prod à Casa. Enfin voilà, ça a été vraiment pour moi l'occasion aussi de rentrer dans le métier de photographe sur d'autres aspects que ce que je pouvais faire à Marrakech.
Et dernièrement, Simon, tu as participé à un superbe projet donc, qui appartient à la belle WED, où il s'agissait de prendre en photo des joueuses donc, de foot féminine du WIDAD. Est-ce que tu peux nous en parler?
En juin 2023, là, de cette année à Casablanca, j'ai intégré le collectif artistique Label WED aux côtés d'Angéline d'Angelzer et de jeunes élèves de l'école de mode de Casablanca ou de l'ESIT, qui avaient créé en fait une collection autour du sport et des matières, des tissus un peu traditionnels marocains, pour créer une collection spéciale pour les filles du club de foot du Wydad de Casablanca. Et donc, on a fait les photos de ces filles avec ces tenues. Vous pouvez les retrouver sur mon Instagram ou sur l'Instagram de la belle WED. Et ça a été une expérience incroyable. Ça a été vraiment génial de voir tous ces jeunes hyper motivés travailler autour de ce projet et ensuite de le shooter avec ces filles qui n'ont pas du tout l'habitude d'être devant une caméra. Ça a été vraiment génial. On a ensuite fait un défilé de mode au consulat de France de Casablanca le 14 juillet. Pour le jour de la fête nationale, avec les filles, avec les tenues. Ça s'est hyper bien passé. Pareil, vous avez des visuels sur la page Instagram. Et ensuite, on a fait une exposition à la gare de Casa Voyageurs et il y avait aussi du mapping de l'école de graphisme de Lille. Ça, c'était en novembre, là, il y a un mois. Donc voilà, on a fait vivre ce projet. Donc la Belle Ouette, c'est un collectif artistique, mais on est ouvert si des personnes veulent nous contacter, ont des choses à proposer et surtout de la motivation. On est tout à fait ouvert à intégrer d'autres membres. Qu'est-ce qui m'inspire au Maroc? Moi, c'est vraiment la diversité des visages. Il y a des gens de partout, du monde entier ici, et tu peux vraiment explorer des univers avec des personnes tellement différentes. Évidemment, la lumière, hein, je vais apprendre à personne que la lumière au Maroc, elle est unique, elle est presque palpable. Et ça, franchement, pour la photo, c'est juste extraordinaire. Et voilà, après moi, la photo de rue au Maroc, c'est un kiff immense. Parce que ce soit à Marrakech, à Tanger, à Casablanca, ou lors de road trip, il y a toujours des choses à photographier, des scènes de vie. On a une culture commune, hein, le Maroc et la France, parce que ben, on grandit ensemble depuis un moment. Mais il y a quand même, il y a évidemment quelque chose de tellement unique ici, quand on vit ici, qu'on voit. Qu'on peut pas voir quand on vient en vacances ou quand on vient en court séjour. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est la force des gens, en fait. La force de vie des gens, elle est. C'est une claque. C'est une claque et shooter ça, c'est un honneur, en fait. Voilà. Et il y a des projets à venir autour de tout ça par la suite.
Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous et c'était un véritable plaisir que de te recevoir. Et on parle donc cinéma avec Asmael Moudir qui a été sacré le samedi 2 décembre lors de la 20e édition du Festival international du film de Marrakech. En effet, pour la première fois, un film marocain, La mère de tous les mensonges d'Asmael Moudir, a remporté l'étoile d'or du festival. L'autre film marocain en compétition, Les meutes de Kamel Zrak, a été quant à lui récompensé par le prix du jury. Pour son premier long métrage, Asmael Moudir a choisi une thématique délicate à aborder. Le pitch, démêler les mensonges qui se transmettent dans sa famille à travers une maquette du quartier de son enfance et à travers des figurines de chacun de ses proches. Elle rejoint en quelque sorte sa propre histoire. Une métaphore filée qui met à nu des blessures communes entremêlant histoire avec un grand H et histoire personnelle.
Oh, Radouni Aouja. Radouni Aouja. Aoujouni.
Ashkhadim Tiana.
انت يا صحفيه انت يا صحفيه انت يا صحفيه
انا مخرجه
انت صحفيه
فين كنتي نهار الاضراب
هذاك النهار راه خطر هذاك النهار ما فيش راه ما فيش تخرج
المقابر مشتوها
الحقيقات مستوها
12 عام كنت كنتوه جسد بلا ذاكره في نفس عمري فاطمه رجعت ذاكره بلا جسد خاطري تصويتها بالبيض والكحل
عاونك بنيتي الله يرضي عليك بنيتي رحمتك
La mère de tous les mensonges, Asmael Moudir, après avoir brillé à Cannes dans la section Un certain regard, la réalisatrice marocaine Asmael Moudir a raflé l'étoile d'or lors du dernier festival de Marrakech avec La mère de tous les mensonges, un film dans lequel elle donne la parole aux membres de sa famille qui ont fait du silence leur échappatoire. Chose qui a poussé la cinéaste à mener son enquête pendant près d'une dizaine d'années afin de venir à bout de ce qu'elle appelle, je cite, le crescendo des mensonges, qui prend figure peu à peu à travers une maquette réaliste du quartier de Casablanca, où tous habitaient au début des années 80. La mère de tous les mensonges fait partie de ces documentaires qui s'amusent de la fiction pour faire éclater, ou mieux éclater, la vérité. El Moudir convoque l'inconscient individuel pour révéler un inconscient finalement collectif, qui dépasse l'histoire de tout un chacun. Ici, il est question d'histoire commune, d'histoire d'un peuple, parfois douloureuse, difficile à reconnaître et surtout à nommer. Mais Asmael Moudir choisit l'humour pour contrebalancer la gravité du propos. Présente en voix off, elle chuchote tout au long du film. A l'inverse, la matriarche de la famille, râleuse, colérique, s'approprie le film avec une énergie débordante. Comment exister dans une famille marquée par son histoire ? Comment évoquer le passé alors que le chef de la famille, la grand-mère notamment, interdit de conserver par exemple toute photo ? Asmael Moudir nous raconte en voix off, parfois à travers les figurines, ce que les photos disparues ne pourront pas raconter. Ce que les mots ne peuvent pas dire. La mère de tous les mensonges est avant tout un film sur la mémoire. Celle compter, à l'instar d'une reconstitution des faits dans un procès, Asmael Moudir convoque le passé, le met face à lui-même, afin peut-être qu'il puisse se réconcilier avec sa propre personne. Et après avoir parlé cinéma en compagnie de Asmael Moudir, tout de suite, je vous propose une petite pause musicale. Noyi, CK, et on parlera art juste après avec Zulum Baye.
Jury.
Noyé, CK qui nous régale encore une fois avec ses vibes et son énergie ultra-dernique. Dans l'Afrique en culture, s'il y a bien une chose dont on aime parler, c'est l'art, avec un grand A. Et qui de mieux que Zulu Mbaye, qui nous a fait l'honneur eh bien, de répondre oui à notre invitation. Véritable institution vivante, école vivante également, de l'art contemporain africain. Il aura marqué de son ADN, de sa signature, un revirement artistique sans précédent dans le monde de l'art contemporain africain tel que nous le connaissons. D'ailleurs, on l'écoute tout de suite.
L'art est tout simplement revendication. Il ne suffit pas, il n'est pas question de faire de l'illustration de notre, comment dire, de nos revendications. Parce qu'on a des outils aujourd'hui tels que la télévision, nous sommes à la télévision, il y a la radio, il y a les journalistes reporters qui parlent des questions quotidiennes. Donc pour moi, l'engagement dans l'art, c'est l'engagement dans la beauté, c'est l'engagement tout simplement dans le beau. Mais ce que je reproche aux artistes contemporains africains aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que l'engagement dans l'art, c'est faire tenir un cerceau, un marteau, un burin, comme on a tendance à le voir dans l'art occidental d'une certaine époque. Non, je pense que nous, négro-africains, nous avons autre chose à proposer au monde, parce que ne serait-ce qu'un trait, un seul trait sur une toile est une revendication. Et moi, ma revendication se situe dans ce sens-là. Ce n'est pas faire du reportage des, comment dire, activités politiques ambiantes. Ce n'est pas ça la revendication. Je pense qu'il se trompe de voie. La revendication, c'est dans la quête de l'amour, dans la quête de la paix universelle. Et ça, toute œuvre d'art dans son essence porte cela. Et donc, je ne comprends pas. Parce que ceux en Occident qui parlent de revendications, qui ont des projets sociaux d'environnement parce qu'ils vivent dans une société de consommation où ils sont dans des... C'est leur activité, c'est leur trajectoire qui leur a amené là. Et je ne pense pas que cette trajectoire soit celle de l'Afrique. L'Afrique doit proposer autre chose, une autre démarche et relire nos codes et nos signes et nos symboles, pas avec des lunettes occidentales ou d'ailleurs, mais avec nos propres lunettes. Parce que c'est cela que nous devons proposer au monde. Et c'est là où on va intéresser le monde et pas d'une autre manière.
Notre africanité, comme vous le revendiquez depuis toujours, Monsieur Mbaye. Et avant de nous quitter, je voudrais que vous reveniez sur cet événement auquel vous participez, donc le dialogue entre l'art et l'écriture, avec notamment Eugène Ebouté, Leïla Benhumen, mais également votre livre « L'Afrique célèbre ». Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Mais je suis invité aujourd'hui à ce colloque dont le thème est « L'idéal humaniste universel est-il inachevé ?» Et dans ce cadre-là, je vais faire une contribution pour parler de l'histoire du OFF de la Biennale de Dakar. En fait, la Biennale jusqu'aux années 94-95, était ouverte au monde entier, aux artistes du monde entier. Et c'est en 1996 que le Sénégal va décider d'africaniser cette biennale. Et je dis que ce n'est pas normal, j'étais tout à fait contre cette idée, parce que nous n'avons pas d'infrastructure culturelle, nous n'avons pas de musée, nous n'avons pas de galerie, nous n'avons pas de marché de l'art. Africaniser l'art africain reviendrait à le ghettoiser, à l'enfermer. Et j'ai organisé avec quelques artistes d'une douzaine de nationalités un boycott qui a déclenché ce qu'on appelle aujourd'hui le off de la Biennale de Dakar et dont la presse culturelle me dit que je suis le père. Effectivement, ça c'est l'histoire de ce off. Donc c'est cette question que je viens traiter aujourd'hui à Rabat dans le cadre de ce colloque initié par le CNDH et c'est un grand plaisir d'essayer de vulgariser, de présenter au monde cette revendication qui, parlons du mot inachevé, est inachevée, mais encore une fois, que nous essayons de nourrir et de porter vers le haut, parce que l'Afrique a besoin aussi de parler d'elle, parce qu'on a souvent parlé de l'Afrique, et l'Afrique a toujours écouté les autres, ce que racontaient les autres sur elle. Alors aujourd'hui, l'Afrique a besoin de parler au monde, et je pense que la contribution que je suis venu faire aujourd'hui à Rabat contribue dans cette philosophie, dans cette démarche.
Et merci de faire entendre votre voix, Zulumba. Et c'était un véritable plaisir que de vous recevoir. Merci encore d'avoir été avec nous.
Je vous remercie, madame. Merci.
Et après avoir parlé art avec l'immense Zulumba, nous parlons littérature avec Diambar, une école de la vie, paru aux éditions Saraba, un livre assez unique en son genre qui retrace le parcours atypique de Ali Slimane Lee, ce dernier ancien pensionnaire de l'Institut de formation de football Diambar, hébergé dans son enfance, a gravi peu à peu, malgré les différents obstacles, les échelons pour finir par devenir un ingénieur en informatique à Arras. Coécrit avec le journaliste Ndiaye Samb, Diambar, une leçon de vie d'Ali Slimane Lee dresse le portrait de son co-auteur. D'ailleurs, on écoute tout de suite Ali Slimane Lee.
C'est dans la rue qu'il a été repéré par les recruteurs de Diambar. Candidat de la première promotion de l'Institut, Ali est donc arrivé ici avec ses seuls talents de footballeur, sans jamais avoir été scolarisé. Bourreau de travail, animé d'une volonté hors pair, Ali est souvent le premier arrivé et le dernier parti. Il sait d'où il vient et mesure sa chance.
Quand tu as une chance dans la vie, tu vas accrocher ta chance. Tu vas aller chercher ta chance. Et ça se voit ici à Diambar aussi, quoi, parce que voilà, quoi, à chaque fois, j'ai envie de réussir, voilà, quoi, parce que c'est grâce à ce que j'ai vécu au centre, là-bas, dans les écoles coraniques. Donc si on me donne des sens comme ça pour réussir, voilà, je vais jusqu'au bout de mes efforts. Je ne me pose pas de questions, je vais jusqu'au bout de mes efforts.
Ali Slimane Lee qui est au cœur du livre Diambar, une école de la vie. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas un livre sur l'Institut Diambar qui forme des jeunes footballeurs, mais un livre sur un Diambar, Ali, un guerrier de la vie. Voilà ce qu'explique dans Bélé Ndiaye Sambé, journaliste et auteur du livre. Ali, c'est d'abord un destin exceptionnel, une force mentale extraordinaire, une leçon de vie qui pourrait inspirer beaucoup de jeunes Sénégalais. Dans cet ouvrage, Ali Slimane Lee raconte sa vie, son parcours à Ndiaye Sambé, avec qui il a coécrit le livre. Les deux, il faut l'avouer, ont partagé beaucoup d'heures de travail durant lesquelles Ali s'est confié et Ndiaye écrivait. C'est un aboutissement pour les deux amis, surtout pour Ali qui tenait à partager ce parcours si particulier. Je cite donc, je voulais adresser un message aux jeunes Sénégalais pour leur dire, lorsqu'on a un objectif, on se donne les moyens de l'atteindre avec l'envie, la détermination. Rien n'est impossible. Diambar, une école de la vie donc qui est apparue aux éditions à Saraba qui retrace le parcours du grand Ali Slimane Lee, à lire d'urgence. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à écouter toujours en avant-première sur Média Podcast.